et reste avec ce son de tout petits esclaves qui sont au four et au moulin gratuitement dans des familles citadines qui ne sont pas les leurs. Levés à l'aube, courses, lavage, repassage, ils ont entre 4 et 18 ans et sont près de 300 000 sur l'île d'Haïti, sans aucun accès à l'école, à l'éducation. Le père Jean-Baptiste Miguel a décidé ainsi de s'occuper de ces restes avec il y a maintenant 20 ans, en fondant le foyer Maurice Sixto à Carrefour, dans la banlieue de Port-au-Prince. Il accueille maintenant 300 enfants. Une goutte d'eau pour le père Jean-Baptiste qui nous explique tout de suite l'arrivée de ses enfants seuls dans les grandes villes.
Le pays est divisé pratiquement en deux. Il y a les gens du dedans et les gens du dehors. Les gens du dehors sont à peu près à 80%. Ce sont les paysans, les gens de l'arrière-pays, où il n'y a aucune structure de santé, d'éducation, d'économie, etc. Ce sont des gens marginalisés. Ces familles-là se voient obligées de donner leurs enfants à d'autres familles qui habitent dans les endroits plus ou moins privilégiés parce qu'il y a au moins un minimum d'éducation, de santé, etc. À ce moment-là, il y en a qui sont bien traités, mais en majorité, il y en a qui sont maltraités.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mauvais traitement?
Au lieu d'aller à l'école et de profiter de la civilisation, entre guillemets, ils sont réduits à servir, à être utilisés comme des bêtes de somme dans la maison. Ils font à peu près tout par rapport aux autres enfants. Aller faire des commissions un peu partout, aller au lit le plus tard et se lever le plus tôt, c'est le sort de la plupart de ces enfants.
Comment est-ce que vous faites, vous, à Carrefour, dans la banlieue de Port-au-Prince, pour retrouver, trouver ces enfants restent avec?
Le pays, c'est un grand petit pays, donc on n'arrive pas à atteindre tous les enfants, mais les enfants qui habitent aux environs du foyer, donc c'est pas difficile de les contacter, de bouche en bouche, de bouche à l'oreille, ils ont entendu parler du foyer, là ils payent pas pour les enfants, tout est gratuit pratiquement, on a une clinique dentaire qui est non seulement au service des enfants, mais au service de toute la famille, et dans la zone, il n'en existe pas d'autres. Donc on donne des avantages qui attirent les gens, on travaille pour leur intérêt.
Il y a donc des avantages matériels évidents pour ces familles qui acceptent chez elles des enfants restent avec, mais comment est-ce que vous arrivez à les convaincre de vous laisser leurs enfants domestiques?
Notre méthode d'approche est adaptée à la situation. On est des Haïtiens, on connaît la réalité, on sait comment parler aux gens, et puis moi, étant donné que je suis prêtre, donc il y a un avantage, on n'a plus d'écoute. Et quand on leur dit que tous les enfants ont les mêmes droits, parce que tous les enfants sont des enfants, c'est difficile à vivre, mais ils sont d'accord quand même.
Et donc votre travail est un travail de sensibilisation, d'information, mais aussi un travail d'éducation. Vous venez en aide à ces enfants, vous les accueillez chez vous. Comment se comporte un enfant reste avec qui arrive chez vous pour la première fois?
Un enfant qui arrive comme un enfant traumatisé. Oui, ils sont la tête baissée, ce sont des enfants qui ont beaucoup souffert, qui ont peur de tout le monde. Ils ne sont jamais appelés par leur nom. Donc l'enfant a vécu dans l'anonymat total. L'enfant ne sait pas s'il a de la valeur, s'il est un être humain comme tous les autres. Et puis avec notre méthode d'approche, notre accueil disponible pour ces enfants-là, tout de suite, l'enfant se sent dans une famille. Et une semaine après, on sent le changement. L'enfant qui ne pouvait pas parler, l'enfant qui ne pouvait pas regarder les gens dans les yeux, eh bien voilà, ça commence.
Vous donnez à ces enfants donc une identité. Est-ce que vous leur offrez aussi la possibilité d'apprendre à lire, à écrire, enfin en tout cas de se former pour faire face à la vie?
La base de la formation offerte aux enfants-là, ce sont les trois arts qu'on appelle animation, alphabétisation, artisanat. L'animation, c'est permettre à l'enfant de s'épanouir. On profite de toutes les occasions pour faire la fête. Les enfants, ils créent des animations, etc. On fait appel à leur potentialité. Donc, ils arrivent à s'exprimer et à s'épanouir. Deuxièmement, pour l'alphabétisation, c'est un apprentissage à l'écriture, au calcul. Nous, à partir du quatrième pour les plus jeunes, on les dirige dans d'autres collèges de la zone parce qu'on ne veut pas faire non plus du foyer un ghetto. Et puis, l'artisanat, c'est l'apprentissage de métier qui leur permet de vivre. Il y en a qui vivent à partir de ce qu'ils ont appris au foyer, ici.
Et alors, comment se déroule une journée? Est-ce que, à quelle heure vous les accueillez? Est-ce que c'est un accueil continu?
L'enfant ne reste pas au foyer. Ils viennent à partir de, disons, 1 heure. Il y a un repas chaud. Et après ça, il y a les activités. Et puis, à partir de 5 heures, l'enfant retourne à la maison. Ça nous permet d'avoir contact avec les familles d'accueil.
Quand vous parlez des familles d'accueil, vous parlez des familles qui ont accueilli cet enfant et qui en ont fait un esclave, un reste avec?
Oui. Gentiment, on les appelle les familles d'accueil parce que ça devait être ça, la famille d'accueil. On essaye d'éviter tous les mots négatifs et remplacer ces mots-là par des mots positifs qui ont un sens pour l'enfant. C'est pourquoi, au lieu de parler de domesticité, on parle de solidarité. Solidarité de famille à famille.
Quand vous prenez la tolérance, est-ce que ces familles d'accueil vous suivent? Est-ce que ça ne leur pose pas un problème, par exemple, de voir un enfant qui était leur domestique s'épanouir, devenir un être indépendant?
Le travail ne se fait pas à leur insu. Donc, ils sont intégrés aussi dans le travail. Quand il y a une fête, ces familles-là sont les premières invitées. Ce qui arrive parfois, c'est un peu de jalousie, parce que parfois l'enfant profite au foyer, beaucoup plus que l'enfant de la maison. Alors, c'est pourquoi il y a cette tendance. Au lieu d'envoyer l'enfant rester avec au foyer, on a essayé de nous tromper pour envoyer leurs propres enfants, l'enfant même de la maison.
Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des familles d'accueil, mais pas des familles d'origine. Est-ce que vous aidez les enfants à les retrouver? Est-ce que les enfants ont envie de retrouver leur famille d'origine?
L'une des souffrances la plus atroce de l'enfant, c'est la séparation avec leur famille d'origine. Nous, au foyer, on en est conscient. C'est pourquoi on organise ce qu'on appellerait le regroupement familial. Amener ces enfants-là à rencontrer leur famille d'origine. Quand l'enfant n'a jamais vu sa famille, ses petits frères, etc., 2 ans, 3 ans ou 4 ans, et quand tu arrives à la maison avec cet enfant-là, d'assister à ses retrouvailles, oui, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est dans notre programme. On n'amène pas l'enfant pour que l'enfant reste, mais c'est pour cette prise de contact. On invite même des familles d'accueil à nous accompagner dans ces visites.
C'est une sorte de réconciliation entre eux.
Exactement, réconciliation, c'est ça le mot. Et quand on fait ça, au fond, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de volonté de faire le mal, mais on agit par ignorance, par manque de réflexion sur le problème, on traite l'enfant comme ça, etc. Mais je pense qu'avec patience et avec cette volonté de faire une information généralisée, on arrivera à améliorer le sort de ces enfants-là et peut-être, qui sait, à changer totalement la mentalité et le comportement des familles. Donc justement, on a fondé le foyer pour une prise de conscience de tout le monde, de toutes les familles, que ce soit la famille d'origine, la famille d'accueil, l'église, l'État, etc. On est comme une petite voix qui crie dans le désert pour dire qu'il y a un problème qui nous concerne tous et sur lequel il faut nous pencher, sinon on n'a pas d'avenir.